Bonjour, c'est Antoine Doll dans Pop Pop Pop. Eh bien, Pop Pop Pop, c'est parti! Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Ma conscience professionnelle, car oui, moi aussi j'en ai une, même que je lui fais régulièrement passer des examens de conscience professionnelle et qu'elle s'en sort toujours avec mention. Ma conscience professionnelle, disais-je, avant de m'interrompre moi-même avec ce sens de la digression que m'envie tant d'hommes politiques, ma conscience professionnelle, disais-je, m'impose de revenir sur un incident survenu lundi avec les deux musiciens de Justice. Souvenez-vous, Xavier et Gaspard évoquaient ici cette période heureuse de leur enfance, bercée par ces chanson inoubliable, partie intégrante de l'inconscient collectif national. Je pense en particulier à des titres comme XOR, Clémentine, Lady Oscar, Tchaou et Grodo, Les Quatre Amis, qui ont tous en commun d'avoir été écrits par votre serviteur en un temps où il abusait parfois de substances psychotropes dont on ne soulignera jamais assez la dangerosité sur des esprits malléables. Et Xavier et Gaspard me félicitaient en particulier pour Cobra, dont l'influence est loin d'être négligeable dans la musique de Justice, même si elle n'est pas immédiatement perceptible aux oreilles profanes. Et souvenez-vous, sinon je vous le rappelle, j'avais alors nié être l'auteur de cet hymne immortel, alors que c'est bien moi qui ai commis ça. S'est-il passé? Reliquat d'une insolation estivale, première manifestation d'un Alzheimer précoce, sentiment de culpabilité d'avoir pondu une merde pareille, première manifestation d'un Alzheimer précoce? Je ne saurais le dire. Mais ma conscience professionnelle donc m'oblige à en faire ici publiquement l'aveu. Louis XIV disait « L'État c'est moi », eh bien Cobra, c'est moi. Première manifestation d'un Alzheimer précoce? Voilà la lumière faite. Eh bien maintenant, que la lumière soit.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, ah mais si, ah mais ça commence par un. Rappelez-moi juste pour voir.
Catherine.
Ah, bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Bien, au menu de Pop Pop Pop, une spéciale histoire. Attention, pas une émission ambiance secret d'histoire à la Stéphane Bern, hein, où je déambulerai dans les allées du château de Versailles avec une veste à motif cul de poule et
j'aimerais
des mocassins à gland. Non, ici c'est une spéciale histoire, mais pop. Avec nous tout à l'heure, il y a la youtubeuse Manon Bril qui se pose des questions éminemment historiques du style « Pourquoi les statues ont-elles de petits pénis ?» Réponse tout à l'heure. Et tout de suite, rendez-vous avec celui qui signe une épopée flamboyante dans un Moyen-Âge politique et enchanté. Bonjour Cyril Pedrosa.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans Pop Pop Pop. Vous publiez avec votre compagne Roxane Moreil l'âge d'or dont nous allons parler dans ce numéro, on peut le dire, historique de Pop Pop Pop. Mais d'abord, Cyril Pedrosa, vous le savez certainement, mais pendant 222 émissions, j'ai posé ici cette même question.
Pour vous, c'est quoi la pop culture?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes ou indéchiffrables. Et parmi mes préférées, il y a celle de Jamie Hewlett, la partie graphique de Gorillaz.
Alors, la culture pop, quand vous l'entendez, quand vous la voyez, quand vous la sentez, quand vous la touchez, quand vous la... l'éprouver, ça fait pop. Ça fait
pop music.
Et donc, la musique pop, l'art pop, la culture pop, c'est quelque chose qui vous réveille, qui vous sort de la grisaille quotidienne que vous voyez à la télé ou que vous entendez à la radio. C'est quelque chose qui fait pop et qui vous éveille, que vous reconnaissez instantanément.
Et pour vous, Cyril Pedrosa,
c'est quoi la pop culture?
Non mais je suis assez d'accord avec cette définition-là, le côté
vous
pop.
Vous n'allez pas vous en sortir comme ça.
Voilà, question suivante.
C'était bien tenté.
Ouais, bon. Non mais le côté, la légèreté et la joie, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est effectivement c'est ça qui nous rassemble autour de la culture pop et qui fait que massivement on est très nombreux à partager toute une série d'émotions. Il y a une espèce d'énergie qui a à voir, je pense, avec. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, une espèce d'énergie de la jeunesse, une vitalité dans la pop, quelque chose de très très instantané et qui rassemble, mais d'une manière très très puissante, enfin presque comme les religions au Moyen-Âge pouvaient le faire, par exemple, une communion émotionnelle aussi, mais qui se fait très directement, qui passe pas par la raison, qui va toucher directement des zones du cerveau dont j'ignore le nom, mais qui provoque instantanément une réaction très profonde et qui fait que là, il y a quelque chose qui se partage d'une manière très intense.
Mais c'est un parfait complément à la réponse un peu anglaise, hein. N'ayons pas peur de le dire, de Thierry Violette. Bien, merci Cyril. On continue à parler de pop, de culture et de pop culture juste après le tout nouveau morceau de Christine and the Queens, rebaptisé Chris. Mais attendez, c'est pas une putain d'exclu ça? Ok, jingle.
Ouah putain, truc de ouf!
Eh oui, truc de ouf, c'est aussi ça, pop, pop, pop. Allez, on écoute ça, ça s'appelle La Marcheuse. La Marcheuse, tout nouveau morceau signé Chris, point, et non plus Christine and the Queens. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un dessinateur qui enfant détestait Tintin. Mais enfant, vous détestiez Tintin, Cyril ?
Mais comment aimer Tintin quand on est enfant ?
Vous
non mais parce que la première bande dessinée qu'on m'a offerte, c'est Tintin en Amérique, qui est vraiment pas le plus funky des albums d'Hergé. Et ça a été ma première déception. En fait, j'ai lu ce livre, je me suis ennuyé à mourir. Et je crois vraiment que j'ai pas ouvert un livre de Tintin jusqu'à l'âge de 18 ans après.
Et après, vous êtes réconcilié?
Un peu, oui, mais par contre, il y a toujours un truc chez Hergé que je trouve, qui m'angoisse un peu dans le contrôle du dessin.
Ouais.
C'est tellement abouti, en fait, que c'en est flippant.
D'accord. Alors, qui est donc notre invité de ce jour, ce hater du journaliste à la houppette, qui entretient, il est vrai, une relation un peu chelou avec son chien? Eh bien, réponse avec son pop portrait. Alors, votre pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Roux.
Précisons que Tintin n'est pas la seule chose dont notre invité n'est pas fan. Évitons dans cette émission de lui parler prosélytisme quinoa pour atterrir chez McDo ou tri sélectif et bain quotidien. Ça peut aussi lui donner de l'urticaire et c'était d'ailleurs l'objet d'une autre de ses œuvres, un très perso quoique romancé, intitulé Autobio chez Flûte Glaciale, je le signale. Sur son amour-haine du mouvement, en cette période très hulot, je trouvais ça bien d'ouvrir le portrait par ça. Parmi les autres œuvres dessinées de notre invité, qui ne saurait être réduit à ce qui le hérisse, hein, le très beau Trois Ombres, conte fantastique sur un sujet difficile, qu'il a aussi scénarisé, tout comme Les Cœurs solitaires sur la vie oppressante du pauvre Jean-Paul, ou encore Portugal sur la vie de Simon Mucha, un auteur de BD sans inspiration ni projet, c'est étonnant. Il illustre aussi la collection Ring Circus, l'histoire de deux amis qui plaquent tout pour se faire embaucher dans un cirque, une bio à peine romancée de l'histoire d'Antoine et moi-même. Les aventures de Shaolin Moussaka ou encore Brigade Fantôme, bibliographie non exhaustive. Autre signe particulier, il a aussi officié pour Disney, mais c'est une princesse bien différente des Cendrillon & Co. dont il vient aujourd'hui nous parler.
Que se passe-t-il d'ailleurs si on vous parle de quinoa, de tri sélectif et de bain quotidien?
J'ai des éruptions cutanées assez violentes.
Immédiates.
Immédiates.
On n'en parlera donc pas aujourd'hui. Cyril Pedrosa, parlons un peu de culte, enfin de référence culte, c'est l'heure de votre poplist. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. On va commencer par le livre. Ce livre, c'est Vineland, écrit par Thomas Pynchon, publié en 70 aux États-Unis. Charline, vous qui avez lu plus de livres hein, que n'en contenait la grande bibliothèque d'Alexandrie, dites-nous de quoi il s'agit.
Alexandrie, de Claude François.
Oui, bien sûr, Alexandrie.
C'est l'histoire de Zoid Wheeler, un drôle de type dont l'activité principale consiste à se jeter à travers une fenêtre chaque année devant une caméra, et ce uniquement pour toucher la prime d'État ou handicapés mentaux.
Alors avant de nous expliquer ce choix, Cyril, est-ce que vous pouvez nous en lire un petit extrait?
Mais bien volontiers. Plus tard que d'habitude, à un matin d'été de 1984, Zoid Wheeler s'éveilla lentement dans un rayon de soleil qui filtrait à travers un figuier rampant qui pendait devant la fenêtre, tandis que toute une escadrille de jets bleus manœuvrait lourdement sur le toit. Ses rêves avaient été pleins de pigeons voyageurs venus de l'autre côté de l'océan et qui ne cessaient d'atterrir et de décoller à la queue leu-leu. Avec chacun un message pour lui, mais à cause de la lumière qui vibrait sur leurs ailes, il n'arrivait jamais à les attraper à temps. Il comprit qu'il s'agissait là d'un nouvel avertissement que lui envoyaient des forces obscures et vraisemblablement liées à cette lettre qu'il avait reçue avec son dernier chèque d'handicapé mental.
Extrait de Vineland de Thomas Pynchon, lu par Cyril Pedrosa, dont c'est un livre culte. Expliquez-moi pourquoi alors.
Parce qu'en fait, j'ai eu une période de fâcherie un peu longue avec la littérature, disons de la fin de l'adolescence.
C'est après Tintin.
Non mais un truc où je n'arrivais plus à lire. Et j'étais triste de ça. Et puis, on m'a mis dans les mains ce livre. Et ça a été un choc vraiment profond. En fait, j'étais complètement englouti dans ce livre, dans la dinguerie du bouquin, qui évoque quand même à travers tout le roman, qui est pas si immense que ça, mais enfin, toute à la fois la contre-culture américaine, c'est pas la pop culture, c'est plutôt la contre-culture américaine, la paranoïa ambiante dans les années 60, cette espèce de procureur fou dont je me souviens plus le nom, mais qui traque les personnages. Il y a beaucoup d'humour, des digressions permanentes, c'est hyper vivant, c'est un style hyper classieux. Et en fait, ça m'a redonné envie de lire. Et je l'ai pas relu depuis très longtemps, ce bouquin. Je crois que je l'ai lu deux fois.
J'espère que vous donnez envie à nos auditeurs de le lire.
J'espère, c'est un livre fantastique.
Bien, pour le film, vous choisissez Le Château de l'Araignée, réalisé par Akira Kurosawa, et sorti en 1966. Alors, Charline, je sais que vous êtes arachnophobe, certes, ce qui ne vous empêche pas de vivre dans un château. Deux mots sur Le Château de l'Araignée.
C'est Macbeth au Japon et au Moyen-Âge. Dans une forêt, il y a deux généraux, Washizu et Miki, qui rencontrent un esprit qui leur prédit que d'un côté, Washizu deviendra le seigneur du château, mais que c'est la descendance de Miki qui lui succédera.
Bande annonce.
Mononoke no tsugu mori. Sono mori ni kakomare, Moshu no kiri uzu o maku shiro. Kumo no sujo.
Alors on l'aura compris, c'est évidemment la version originale.
Oui, tout à fait.
On va proposer un extrait. Vous êtes fasciné par le Japon féodal, Cyril ?
Pas par le Japon féodal. Enfin, oui, le Japon féodal est fascinant. Mais en l'occurrence, c'est surtout parce que ce film-là est visuellement d'une intensité incroyable. Il y a des images très, très puissantes. Je pense qu'on marquait beaucoup de gens. Notamment, je pense que ça va être la scène de fin, quand Toshiro Mifune est plaqué contre la porte d'entrée du château et que les flèches se plantent partout. Je suis pas sûr du coup, parce que malheureusement, je ne parle pas couramment japonais.
Non, mais c'est la bonne scène.
C'est ça. Mm-hmm. Et cette scène-là, moi, par exemple, elle m'a marqué. Et il se trouve que quand je travaillais sur l'âge d'or, je pensais souvent à ce film. C'était comme une référence visuelle qui n'est pas du tout présente dans le mm-hmm. bouquin directement. Mais il y a cette intensité de l'image, un truc qui est dingue et qui traverse le temps, qui traverse les pays aussi. Enfin, c'est international, c'est intemporel, cette image.
Bien, alors j'ai un livre, j'ai un film, il me faut maintenant une chanson. Votre chanson culte, Cyril Pedrosa, c'est Getting Better des Beatles, sorti en 67 sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Charline, vous qui avez été une des premières à acheter Sgt. Pepper en 67, un petit commentaire pour nous resituer ce chef-d'œuvre.
Une petite anecdote même. Paul m'a raconté à l'époque que l'inspiration de cette chanson lui serait venue en promenant sa chienne, Martha, à Regent Park. Mm-hmm. Alors qu'il remarquait avec la sagacité qu'on lui connaît que le temps s'améliorait, d'où It's Getting Better. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules.
Ça vous fait quoi, Cyril, d'entendre ça ici là,
ça me met d'extrêmement bonne humeur, ouais. Comme à chaque fois que j'écoute sa chanson. C'est la chanson pour me remonter le moral, celle-là.
Vraiment. It's Getting Better, ça va aller mieux.
Ça va aller mieux,
ça
mais
aller mieux
c'est
quand
l'énergie
qui contient
la chanson aussi. Il y a un truc, elle est pas très complexe. Enfin bon, il y a des chansons des Beatles qui sont plus savantes. Mais celle-là, elle est directe, elle est super pop. Et la première fois que je l'ai entendue, j'avais une quinzaine d'années. J'avais une vie adolescente assez moyenne.
À cause de Tintin,
cette chanson-là me filait la patate. Et ce qui était étrange, et je trouve même encore aujourd'hui quand on l'écoute, c'est que les arrangements aussi, j'ai l'impression qu'ils traversent le temps. Il y a un truc qui n'est pas du tout daté en 1967 là-dedans.
Entièrement chanson. D'accord, je vous suis là-dessus. Cyril Pedrosa, terminons cette pop-liste avec la série. La série que vous choisissez, c'est un monstre de la pop culture. Et sachez qu'il aura fallu attendre 225 émissions de Pop-Pop-Pop pour que quelqu'un nous la cite ici. Alors avant d'entendre son générique mythiquissime, je déclenche à nouveau mon jingle.
Oh putain, truc de ouf!
Eh oui, truc de ouf, et maintenant le générique. Évidemment, Starsky et Hutch, et je précise que je n'ai pas écrit cette chanson. Série est créée par William Blin et diffusée entre 78 et 84 en France. Je ne vous demande pas pourquoi, si ? Pourquoi Starsky et Hutch ?
Starsky et Hutch, mais non, mais parce que pour moi, c'est les dimanches après-midi. Je ne sais pas comment dire, c'est Valéry Giscard d'Estaing, c'est le petit rapporteur. C'est une époque qui n'existe plus et qui est celle de mon enfance, quoi.
Voilà. Mais que vous résumez ?
Je trouve que Starsky Hutch, ça contient tout. Voilà.
Très bien. Donc, je résume. Vineland, le château de l'araignée, Getting Better, la Ford Grand Torino de Starsky Hutch. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Une escadrille de jets bleus manœuvrait lourdement sur le toit.
Voilà ce qui tourne dans la tête de mon invité Cyril Pedrosa, co-auteur avec Roxane Morey de L'Âge d'or. C'est ça, hein?
C'est ça, c'est pas très brillant, mais ça ressemble un peu à ça, apparemment.
Alors, Cyril Pedrosa, ce pop-pop-pop spécial histoire pop continue juste après un morceau inédit de Prince, enregistré en 83, à découvrir dans le film de Spike Lee. Ce morceau s'appelle « Mary, don't you weep ».
Oh, catching on the weather. I don't like winter. I sing again, motherfucker, I do when you go. Yeah, yeah, yeah. Mama, don't you move. Got a bad, bad feeling. Your man ain't coming home. Yeah. Yes, you know me well. I don't like no snow, no winter, no cold, but Mary, yeah. Girl, you know I like you, yeah. I got a bad, bad feeling that your man ain't coming home. Yeah, yeah. Oh, mother. Yeah.
Marie, Don't You Weep, c'est un morceau inédit de Prince enregistré en 83 et c'est sur France Inter. Cyril Pedrosa, quittons 1983, montons à bord de ma DeLorean, direction le Moyen-Âge. Montez Cyril, voilà, je ferme la porte.
Je suis à vos côtés.
Et on y va. Voilà, nous y sommes. Alors, vous voyez quoi autour de vous? Parce que c'est très exactement ici que se passe votre BD, L'Âge d'Or.
Alors, je vois quoi? Je vois des gens qui sont avec leur fourche à la main, qui ont faim, qui ont envie de mettre le feu au château.
Ils sont pas contents.
Ils sont pas contents, ils sont en colère. Mm-hmm. Je vois une très très belle princesse comme ça, avec son manteau d'hermine. Mm-hmm. Qui dégouline en cascade sur son cheval. Je vois des preux chevaliers. Je vois des hommes fourbes qui frottent leurs mains comme ça en ricanant, avec le dos un peu voûté. Voilà, je vois ce genre de choses, quoi.
Vous pensiez un jour vous retrouver là, en plein Moyen-Âge?
Non. Je ne suis pas sûr que j'aimerais. Enfin, j'aimerais si je peux en repartir, surtout.
Oui, voilà. Il ne faut pas rester trop longtemps.
Voilà.
Mais c'est aussi ça, pop. Alors, L'Âge d'Or, ça se passe donc au Moyen-Âge et ça commence comme ça. Alors, attendez, je mets mes lunettes. J'ouvre ce grand roman graphique de 232 pages et à la première double page, je tombe sur ce dessin sublime avec ce texte. Wouf, 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 et ce son. C'est bien ça?
Oui, on a travaillé les dialogues énormément.
Charline, est-ce que vous auriez l'amabilité, s'il vous plaît, de nous pitcher L'Âge d'Or?
Absolument.
J'ai l'impression de ne pas être très clair dans mes explications.
C'est l'histoire de Tilda, courageuse et même, disons-le, badass, princesse du Moyen-Âge qui se fait évincer du pouvoir et du royaume auquel elle est en droit de prétendre. Et c'est en fait l'épopée d'une reconquête.
C'est exactement ça, c'est un très très bon résumé. Et son destin, et celui de tous les personnages qu'elle croise, est intimement lié à un récit, et même à un livre qui s'appelle L'Âge d'Or. Mm-hmm. Et cet objet a un pouvoir magique, et quand on l'utilise, on peut peut-être changer le cours du monde. Voilà.
Mm-hmm. On va y revenir à L'Âge d'Or, mais tout d'abord deux mots sur la forme. C'est un livre que son originalité rend absolument inclassable. BD, roman graphique, illustration, storyboard, on est à cheval, c'est normal, on est au Moyen-Âge, humour, sur plusieurs genres. Mais ce qui frappe surtout, c'est la somptuosité des images.
Ah, merci.
Dessin, pochoir, transparence, je ne sais pas quelle technique vous utilisez, vous allez nous expliquer. On pense aux enluminures classiques avec un dessin d'une grande modernité. Comment est-ce que vous y êtes pris?
C'est-à-dire que à chaque nouveau livre, ça prend toujours un petit temps pour trouver la bonne façon de raconter une histoire. Moi, j'aime bien essayer de relancer les dés, se dire ok, c'est comment on raconte ça. Et là, avec Roxane, on avait l'impression qu'il fallait trouver à la fois quelque chose qui évoque vraiment la fantasmagorie, notre représentation fantasmagorique du Moyen-Âge, la féerie. Et que ce soit très 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 vivant et même si possible très séduisant, parce qu'on avait envie que cette histoire soit séduisante, très divertissante, et puis en même temps puiser comme ça dans des références communes qui sont pas vraiment celles de la pop culture, mais en tout cas l'imagerie médiévale qu'on connaît. Donc ça va être l'enluminure, la tapisserie, les vitraux, les rétables, voilà. Essayer de jouer avec ça, mais en faisant une version moderne, parce qu'on l'histoire. Pour nous, elle est profondément moderne. Elle s'appuie sur l'espace du Moyen-Âge, mais pour raconter quelque chose de très contemporain.
Le travail sur le mouvement est aussi très impressionnant. Sur une épopée, c'est très important. Hein, hommage à la chanson de geste, j'imagine. Est-ce que c'est ce qui vous a donné le plus de travail?
Ce qui m'a donné le plus... Oui, ça m'a donné pas mal. Mais après, c'est... concrètement, ce qui m'a donné le plus de travail, c'est la mise en couleur. C'est une technique qui est assez longue. Je travaille, je dessine de manière très classique, au pinceau ou à l'encre de Chine, et après, je numérise mes dessins. Et là, il y a un gros, gros travail assez long de travail sur Photoshop. Je ne vais pas l'épouiller parce que c'est absolument intéressant. Mais voilà, où chaque trait est mis en couleur, en fait, pour avoir cet effet brodé. Et ça, c'est super chronophage, en fait.
L'âge d'or, ça va être 500 pages en deux volumes. On parle là du premier, un travail monstre, hein, à cause duquel vos nuits ont été très courtes, précisez-vous. L'immersion nuit et jour, c'est un vrai besoin ou c'est vraiment parce que vous n'aviez pas le choix en fait?
C'est un peu les deux, je crois. Non, mais j'aime bien ça. Il se trouve que quand on a travaillé avec Roxane à l'écriture du scénario, on ne s'est pas posé de limite sur la pagination. On s'est vraiment dit, voilà, qu'est-ce qu'on veut dire? On a vraiment essayé de le dire le mieux possible. Et puis après, c'est quand j'ai commencé à dessiner les planches, je suis retourné voir Roxane en me disant « Je crois qu'on va avoir un petit problème en fait, il va falloir dessiner 500 pages, ça va faire un livre monstrueux. » Je te cache pas que ça me fait un petit peu peur aussi de passer 5 années de ma vie sur un livre.
5 années.
Donc peut-être qu'on peut, on peut le couper en deux. Bah déjà là, ça m'a pris plus de 2 ans quand même, c'est long à faire, c'est très très long. Et donc c'est comme une petite respiration voilà, de pouvoir faire en deux volumes. Et puis...
L'âge d'or que vous évoquiez il y a quelques instants, c'est donc un livre, un mythe fondateur qui résume la mémoire des combats passés des hommes pour leur émancipation. On est donc dans la fable.
Absolument, c'est ça. C'est... Alors, et l'avantage de la fable, c'est que ça permet, en général, ça sert à quoi? Ça sert à parler de sujets qui nous intéressent ici, aujourd'hui, maintenant. Là, en l'occurrence, c'est plutôt, est-ce qu'on peut encore croire en l'utopie? Est-ce que c'est est-ce qu'on peut changer le monde? Voilà, c'est très bateau comme sujet, mais quand on a commencé à écrire cette histoire avec Roxane, on était à un moment de notre vie, je pense qu'on y est encore toujours d'ailleurs, on avait l'impression que c'était absolument inaudible de dire le monde n'est pas ainsi par nature, on peut le changer. Il est le fruit d'une construction, le monde moderne. Et donc, on s'est dit comment on peut dire ça, comment on peut parler de ça? Et c'est en imaginant, enfin en repensant à l'imagerie médiévale, on s'est dit, ben là, on va parler d'un monde médiéval dont tout le monde sait qu'il n'existe plus. Alors que les gens qui l'ont vécu, eux, avaient l'impression que ce monde allait être éternel. Que de toute éternité, il y aurait des seigneurs, des sœurs, des cercles, que les seigneurs auraient droit de vie ou de mort sur eux, etc. Et c'était un monde inimaginable, ce monde d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on s'est dit, on peut essayer de raconter ça. Voilà.
Avant de changer le monde, ça a changé votre vie à vous et à Roxane?
Oui, d'une certaine tous les livres, mais celui-là en particulier parce que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, donc c'était une pierre assez importante à notre vie commune. Mais bon, c'est un peu secondaire par rapport au travail, mais c'est vrai. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur.
2 ans de travail, Cyril Pedrosa, vous nous l'avez dit, pour ce volume 1. Vous avez débuté donc le projet en 2016, en pleine période préélectorale. Est-ce que ça a eu une influence directe?
Clairement.
Sur la bande dessinée.
En fait, au début, on voulait faire un truc comme l'histoire de la gauche. Pourquoi on est pourquoi cet échec? Et puis on s'est dit non, c'est complètement déprimant. En plus, ça n'intéressera personne. Comment on peut tourner le truc autrement? Mais bien sûr, on était complètement immergé dans un moment de désarroi politique total. Mais c'est pour ça aussi qu'on voulait que ce livre soit, en tout cas au premier degré, la première lecture, un livre aussi d'aventure et divertissant. On avait envie que les gens partent pas en courant, quoi. Donc on voulait les prendre par la main, on leur dire, voilà, on espère que vous allez passer vraiment un très très bon moment de lecture et qu'en lisant ça, peut-être que 2-3 questions vont émerger en vous, et si on a réussi à faire ça, on a fait notre job, quoi.
Est-ce que vous mettriez en parallèle la fin du monde féodal que vous représentez dans l'âge d'or et celle de notre monde à nous? Est-ce que par hasard, ça ne serait pas une sorte d'allégorie?
C'est une
Cyril
sorte
Pedrosa.
D'allégorie, je ne vous le cache pas. Ouais. Effectivement. Oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Mais j'aimerais bien, par exemple, un jour, la décrire, par exemple. Enfin, décrire l'utopie. Ça, ce serait comme une espèce de volume 3. Voilà.
Encore 5 ans de votre vie, quoi.
Encore 5 ans, ça va être épuisant.
On dira 10.
Vous représentez un Moyen-Âge de fantasy. Quelles étaient les références graphiques, si on dit plutôt Perrault que Game of Thrones?
Alors oui, les références graphiques, ça va de, disons, je sais pas, de Gustave Doré, pour la représentation, disons, du Moyen-Âge à Charles Perrault, à Bruegel, qui n'est pas vraiment un peintre médiéval, mais plutôt début Renaissance, mais qui est très narratif, et où il y a, dans certaines images, bien sûr, il y a la perspective, mais il y a comme ça un jeu sur la représentation du décor et des personnages dans le décor qui est clairement daté et qui n'est pas exactement notre mode de représentation. C'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé.
Vous mettez en scène un Moyen-Âge laïque, où il n'est pas question de religion. C'est un parti pris, histoire de ne pas surcharger les arrière-plans de l'histoire.
Exactement, sinon on avait l'impression qu'on allait se perdre dans les enjeux, alors que pour nous l'enjeu était éminemment politique. C'est bien pour ça d'ailleurs que c'est un Moyen-Âge de fantasy, parce que extraire la religion catholique du Moyen-Âge, c'est déjà ne plus parler du Moyen-Âge. Mais oui, parce qu'on s'est dit que si on avait un enjeu religieux y compris dans cette révolte, par exemple, populaire qu'il y a à l'intérieur du récit, on n'allait plus y arriver, on allait se perdre. Mmh. Sachant que, par exemple, c'est vrai que les aventures de Thomas Munzer, qui est un personnage d'un pasteur allemand qui a existé et qui a mené des révoltes populaires, mais en utilisant comme ça le...
Adapté au cinéma avec Mads Mikkelsen.
Oui, absolument. Quoi.
Très beau film de Bayer, qui a utilisé la foi...
comme un support de révolte, c'est quelque chose qui nous a beaucoup influencé, mais qui s'éloignait un peu du corps de notre sujet.
C'est une fable, certes, mais c'est aussi une chanson de gestes et très, très ouvertement féministe. Au cœur de la forêt magique pleine de sortilèges se trouve une communauté de femmes interdites aux hommes, un havre de paix. Là encore, une utopie aux résonances contemporaines.
Alors, c'est bien sûr, oui, aux résonances contemporaines. Et puis, l'idée d'essayer d'évoquer cette question, vous savez, de la manière dont les luttes s'articulent, dont les combats s'articulent. C'est le féminisme, c'est un espace de conquête et d'émancipation qui vient régénérer le mouvement de contestation de l'ordre social. Et c'était une manière de tisser comme ça, à travers cette histoire, une référence directe à notre histoire, à nous, de l'émancipation.
Roxane Morey, co-auteur de L'Âge d'or, parle clairement, je cite, d'histoire de femme. Il n'aura pas échappé à notre sens de l'observation aiguë que vous n'en êtes pas une. Est-ce que ça vous a rendu la tâche plus ardue?
C'est compliqué de travailler à deux et en même temps c'est plus simple. C'est-à-dire que là, on avait les mêmes envies, on voulait raconter la même histoire. Et c'est très stimulant d'être à deux, d'avoir ce jeu de ping-pong. Mais c'est vrai que Roxane, régulièrement, ramener un point de vue qui m'échappe parfois. C'est-à-dire que moi, je suis un homme, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est quand on est une femme dans ce monde-là. Je ne le sais pas. On me le raconte, je l'entends, j'essaie de le comprendre, mais je ne peux pas en parler vraiment de manière aussi juste, je pense, qu'une femme qui l'éprouve, elle, au quotidien. Donc c'était hyper riche d'avoir cette discussion-là avec elle.
Et quittons un instant le Moyen-Âge pour revenir à nos jours. Vous faites partie des signataires d'une tribune publiée dans Libé en janvier dernier, alertant sur le fait qu'un tiers des auteurs de bandes dessinées vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. C'est quoi le quotidien d'un auteur aujourd'hui?
Pour la plupart...
Moyen-âgeux.
C'est ça. C'est ça, on attrape des maladies bizarres, on transpire du sang. Mais pour la plupart des auteurs, moi je peux parler de la bande dessinée parce que c'est le médium que je connais le mieux, c'est vivre au niveau du seuil de pauvreté pour beaucoup, c'est travailler 18 heures par jour, 6 jours ou 7 jours par semaine. C'est des conditions très dures et qui n'ont rien à voir avec le talent des auteurs. C'est simplement qu'au fil des ans, depuis une vingtaine d'années, depuis que j'ai commencé à faire de la bande dessinée, le rapport de force entre les auteurs et les éditeurs s'est déplacé clairement en la défaveur des auteurs. Et que les auteurs se sentent démunis, en fait, pour essayer de rétablir une situation équilibrée. C'est difficile à faire comprendre, c'est un peu abstrait, mais c'est un constat, je pense, que tout le monde partage au sein de la profession.
Cyril Pedrosa, vous êtes le co-auteur avec Roxane Morey de L'Âge d'or, un livre, c'est le volume 1, le volume 2 arrivera en mars 2020.
C'est la promesse.
C'est mon serment. Très, très, très patient. Et vous aurez compris, on a adoré ce livre.
Chez Air Libre, d'ailleurs, je précise.
C'est chez Air Libre. Vous savez faire plein de choses. Vous savez dessiner, vous exprimer très bien. Est-ce que vous savez faire ça?
Je peux y arriver, je pense.
Allez-y. Ah, mais il sait le faire! Bravo, Cyril! C'est pour lancer les Pop News.
Fan de polar et de littérature, réjouissez-vous. Ou juste fan de polar, d'ailleurs. Un poids lourd du genre vient de signer un gros, gros deal avec Netflix. Le romancier Harlan Coben a 14 projets avec le géant du streaming. Pour mémoire, il a déjà créé deux séries, Une chance de trop avec Alexandra Lamy, diffusée sur TF1, et Safe avec Michael C. Hall, diffusée sur C8. Rappelons aussi qu'il est l'auteur d'une trentaine de romans, très adaptables en format série. Finalement, 14 projets, c'est assez peu.
His name is English, Johnny English. Et c'est pas loin d'être le pire agent au service de sa majesté. Il contre-attaque, c'est le titre, toujours sous les traits de l'immense Rowan Atkinson. Dans ce troisième volet, il est question de cyberattaque, autant vous dire qu'il n'est pas prêt, comme le prouve cet extrait de conversation avec sa patronne, joué par Emma Thompson.
Can I just ask, what is wrong with you? Ow! Did you or did you not burn the Côte du Roc restaurant to the ground? And did you fire a missile at a peloton of French cyclists?
Well,
before commandeering an open-top bus and tossing the tour guide off the top deck.
Johnny English contre-attaque, ça sort le 10 octobre sur les écrans.
Des news d'un mystérieux album enregistré il y a quelques années après le split d'Oasis par Noel Gallagher avec le duo expérimental Amorphous Androgynous. Oui, c'était cette programmation.
Très bien prononcé,
ouais,
ça.
Un peu hasardeux, non?
C'est pas grave. Non,
un album dont Nono avait annoncé qu'il avait été détruit, sauf que non, c'est en tout cas ce qu'il a annoncé lors d'une interview.
I did find a copy of it recently in a sock drawer. The Masters, somebody has the Masters have not been destroyed, but it won't be coming out anytime soon.
Oui, vous avez bien entendu, il en a retrouvé une copie dans un tiroir à chaussettes, mais malheureusement pas le Master, donc aucune chance de l'entendre pour l'instant.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaux.
C'est moi.
De plus en plus Jabba the Hutt.
Merci Charline. Avant d'accueillir la youtubeuse Manon Bril pour continuer à parler d'histoire dans Pop-pop-pop, écoutons Joe Tex avec I Gotcha.
Oh, I gotcha. Uh-huh. You thought I didn't see you now, didn't you? You try to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it to you. Come on.
Joe Tex, I gotcha. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Cyril Pedroza, venu nous parler de l'âge d'or, sa dernière pépite pop, et vient de nous rejoindre la youtubeuse Manon Bril. Bonjour Manon Bril.
Bonjour.
Quand on dit bonjour à une youtubeuse, on dit juste bonjour ou on lâche plutôt un « Salut les filles !»
Ah, parce que je suis une youtubeuse, du coup je parle qu'aux filles, c'est ça?
Non, c'était juste pour vous mettre les points.
Et d'ailleurs, une question, vous vous définissez plutôt comme youtubeuse ou vidéaste? Quel terme vous préférez?
Moi, je m'en fiche royalement, mais il y a des gens qui attachent de l'importance au fait de dire vidéaste, et je comprends, ou même créateur, parce que finalement, on est assez polyvalent. Moi, ça m'est bien égal, c'est comme je dis toujours Kleenex et pas mouchoir en papier. Voilà.
Enfin, vous n'êtes pas tout à fait une youtubeuse classique, d'abord vous avez fait des études.
Oh, il y a des youtubeurs qui ont fait des études, les pauvres. Mais oui, tout à fait.
Enfin, pas Monsieur Poulpe. Rappelons que vous êtes docteur en histoire. On dit docteur ou doctoresse d'ailleurs?
Docteur.
Docteur.
Ouais, peut-être que doctoresse se pratique, mais moi je dis docteur.
Docteur. Alors pourquoi officier sur YouTube plutôt que sur les bancs traditionnels de la fac?
Ben, je l'ai fait aussi, mais du coup, suite à des petites expériences de médiation scientifique, j'ai participé au concours Ma thèse en 180 secondes organisé par le CNRS, qui m'a beaucoup plu.
Ma thèse en 80 secondes.
En 180.
180
secondes.
Il s'agit de résumer en 3 minutes.
C'est ça, pour le grand public. Le but, c'est de présenter au public de façon simple et accessible son sujet de recherche. Mm-hmm. Et ça m'a bien plu comme expérience et je me suis dit, tiens, je vais essayer une chaîne YouTube. Et en fait, ça a pris et c'est devenu mon travail. Et ça fait plus vivre qu'une thèse en histoire, donc c'est cool.
Vous en vivez?
Ouais, je vis de la chaîne, ouais.
Très bien, ouais. Félicitations.
Merci.
C'est vos parents qui vous ont transmis cette passion pour cette mythologie.
J'ai toujours bien aimé. Ma mère avait repris des études en histoire de l'art, notamment. Du coup, j'aimais bien quand elle me racontait ce qui était représenté dans les tableaux. Et les sujets mythologiques sont très récurrents dans l'histoire de l'art, donc ouais. C'est un truc que j'ai essayé de reproduire sur la chaîne, en effet.
Une autre histoire, c'est le nom de votre chaîne YouTube dédiée
c'est
à l'histoire.
C'est
une autre histoire. Et c'est sur celle-ci, je le disais précédemment, que vous posez des questions éminemment historiques du style « Pourquoi les statues ont-elles de petits pénis ?» Est-ce que vous avez la réponse alors ?
Ouais, en fait, cette question, elle paraît bête et pas du tout. En fait, elle parle vraiment de masculinité et d'évolution des codes de représentation de la masculinité. Mmh. Et donc, dans l'Antiquité, en effet, on ne dote pas les statues de gros pénis, ou alors c'est pour se moquer d'elles, c'est risible, parce que, bon, je la fais courte, mais en gros, allez voir la vidéo.
C'est le cas de le dire.
mais oui, c'est le cas de le dire. En gros, il y a l'idée que le physique est un miroir du mental, et si on a des organes génitaux disproportionnés, c'est qu'on est rongé par ces pulsions et qu'on ne les contient pas, entre autres, ça fait partie des raisons. Donc, c'est plutôt disgracieux d'avoir un trop gros pénis, mais c'est pas que le sexe en lui-même est mal vu, mais c'est qu'il ne faut pas que ça prenne le dessus sur la raison, etc.
Et moi, Manon, pourquoi j'ai un petit pénis ?
J'ai pas vu votre pénis, Antoine, enfin.
On en parlera
pas. Non, on laisse un petit... moi j'aime bien, on laisse un petit flottement gênant, et après on enchaîne.
Ça vous compte, ce moment gênant.
Précisons, Manon, qu'il y a vous amenez un petit décalage dans les explications que vous donnez, mais tout le fond est absolument vrai. Comment est-ce que vous arrivez à cet équilibre sans vous embrouiller, en fait ?
Alors. L'idée, en effet, de la chaîne C'est une autre histoire, c'est de parler d'histoire autrement et de pas, voilà. Enfin, moi, je veux vraiment pas faire le énième la statue antique et le globe sur le bureau avec des violons en fond, surtout pas. Donc, il y a un emballage justement pop, quoi, avec de la musique hip-hop, trip-hop, etc., fait par notre musicien Otam. Et par contre, les connaissances, a priori, quand c'est des domaines qui sont les miens, notamment lié à la mythologie, parce que j'ai fait une thèse à plus ou moins en rapport, a priori, c'est de quoi je parle. Et quand je vais sur des terrains qui sont un peu plus éloignés des miens, parce que j'essaie aussi de diversifier, j'essaie de trouver des spécialistes qui peuvent me relire ou m'indiquer les bonnes lectures, etc. Voilà. Donc on jongle avec tout ça, mais en essayant de pas faire un emballage monotone, quoi. Enfin, le but, c'est de dire, non, vous inquiétez pas, vous allez vous amuser, c'est fait pour vous, c'est pour parler à ceux qui sont un peu frileux par rapport à l'histoire, qui ont été un peu fâchés avec avant et qui en ont peur.
Voilà. Alors évidemment, sur cette chaîne, on ne parle pas que de pénis et de statues, la preuve.
Salut vous.
Et salut, c'est Manon Bril, bienvenue dans C'est une autre histoire.
Les artistes ont essayé de comprendre la recette des anciens.
Et salut, je suis au Capitole, vous connaissez ?
C'est dur à se représenter 100 000. Tiens, par exemple, il y avait quoi il y a 100 000 ans ?
Par exemple, est-ce que vous saviez que le GR, le chemin de grande randonnée, passait par la Tour Eiffel ? Alors qu'est-ce que c'est ? Non pas une boîte aux lettres, non pas un bac à sable.
Et salut, c'est Manon Bril, bienvenue dans un nouveau Tu vois le tableau. Le Japon est un pays qui nous fascine. Pour cela, Prométhée apporte un taureau et le découpe en deux parts inégales.
Je vous propose d'en parler aujourd'hui. Bienvenue dans Avide de recherche.
C'est une autre histoire, une chaîne YouTube que vous avez créée en 2015, Manon Bril. Comment est-ce que vous la définiriez, vous, précisément ?
Eh ben, voilà, comme ça en fait. C'est une chaîne pour parler d'histoire autrement, donc. Il y a beaucoup de mythologie parce que c'était lié à mes sujets de prédilection, mais c'est en train de s'ouvrir et de varier et ça va le faire de plus en plus. L'idée, ça s'adresse pas à ceux qui sont déjà très passionnés ou alors regardent pour d'autres raisons, pour s'amuser un peu éventuellement. Mais c'est vraiment de réconcilier ceux qui sont frileux par rapport à l'histoire. Et de se marrer aussi. Je pense qu'on peut regarder même si on s'en... Enfin, j'essaye de faire ça. Je pense qu'on peut se marrer même si on s'en fiche de l'histoire totalement. Mais que... on aime bien les blagoulettes de cul, par exemple. voilà.
Et vous pensez qu'il y a
bonne porte d'entrée sur l'histoire.
Il y a un souci avec l'apprentissage scolaire de l'histoire ?
Eh ben, clairement. C'est comme tout, il y a des profs géniaux et des profs qui sont moins bien, malheureusement. Moi, j'ai eu des profs trop bien en prépa, par exemple, et c'est pour ça, surtout pour ça d'ailleurs, que je me suis tournée vers l'histoire après. Il y a des soucis. Je suis une ancienne enseignante, en fait, j'étais prof des écoles avant. Et je dirais surtout qu'il y a des soucis. Alors oui, il y a des mauvais profs, mais je dirais surtout que les conditions de travail des profs aujourd'hui sont vraiment difficiles.
Oui, c'était pas pour incriminer les professeurs, c'est juste aussi sur le...
Et du coup, c'est vrai que c'est dur parce qu'il y a des classes de plus en plus chargées, avec de plus en plus de niveaux hétéroclites, hétérogènes. Bref,
ça marche.
Ça passe. Et du coup, c'est un taf qui devient vraiment difficile, qui est ingrat, qui est mal payé pour ce que c'est, etc. Donc il y a un souci à ce niveau-là, je pense. Et ça s'en ressent malheureusement dans l'enseignement après.
Vous adorez l'histoire et la mythologie depuis toujours, et le point de départ, c'était ça. Fantasia, le film de Disney, et plus précisément le morceau avec les licornes. On est d'accord ?
Ouais, c'est fait.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Qui est de, d'ailleurs ? Bah voilà,
c'est une colle. Alors là,
ouais, bah moi non plus.
Alors, Beethoven, non ?
Est-ce que c'est un Beethoven ? Peut-être.
Oui, je
m'en souviens plus, mais j'en ai déjà parlé en vidéo, donc bravo à moi. ouais, carrément. En effet, ce petit court métrage parmi tous les Fantasia m'avait marqué gamine, et c'est vrai que il y a une mythologie très édulcorée à la Disney des années, je ne sais plus combien, 30 ou 40, très rose bonbon, les petits ânes mignons et tout le monde qui saute. Mais moi, ça a marché sur moi, gamine. Et en effet, ouais, ça fait partie des trucs qui m'ont fait, je pense, m'intéresser à la mythologie gréco-romaine.
Ouais. Alors qu'au départ, ça n'a rien à voir avec la mythologie à la base, mais c'est ça qui est intéressant, car déjà dans l'Antiquité, la mythologie est une affaire de réappropriation, un peu comme dans la pop culture. Et c'est pour ça qu'il existe plusieurs versions des mythes.
Tout à fait, ouais, exactement. C'est un truc que j'entends souvent dans les commentaires de mes vidéos, enfin que je lis souvent, c'est « Ah oui, mais tu racontes cette version, mais moi j'ai lu ça ». Et en fait, contrairement à, par exemple, des religions où il y a un texte canonique, comme la Bible, enfin toutes les religions monothéistes en ont un, la mythologie gréco-romaine en tout cas, il n'y a pas un texte de référence et toutes les versions se valent. Mmh. Et il n'y en a pas une qui prime plus que l'autre, éventuellement des plus répandues ou des plus populaires, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas valables. Mmh. Donc ça, c'est un truc où ça nous fait un peu bizarre, nous qui sommes habitués à avoir une seule version qui est censée être la bonne et tout. Mais c'est comme ça. Et donc, on a plein de choses contradictoires et il faut juste l'accepter. C'est un autre fonctionnement.
Cyril Pedrosa, voilà des propos qui ne peuvent que trouver grâce à vos oreilles, j'imagine.
Bah, j'aime bien l'idée, en tout cas, qu'il y ait une part de fiction là-dedans. Et que c'est ça aussi qui fait que ces histoires-là ont autant d'importance pour nous. Mmh. C'est qu'elles viennent toucher de l'imaginaire, c'est pas...
Ouais, c'est des histoires qui font toujours vibrer aujourd'hui. C'est des histoires qui sont palpitantes, épiques, des histoires d'amour, des histoires drôles, des histoires de cul. On y revient, mais... Ouais, à un moment donné, ça fait... Voilà, de tout temps, ça
partout,
fait...
Partout, hein.
Ça, voilà, c'est ça intéresse aussi. Mmh. Donc oui, ça fait toujours vibrer aujourd'hui, ouais.
Est-ce que vous seriez d'accord tous les deux pour dire que l'histoire, c'est une question de taille de mythe?
Ça mérite réflexion, je crois. On peut prendre le temps d'y penser.
Moi, je dirais que la taille de bite est une bonne réflexion pour des problématiques d'histoire.
Ouais. Ah, ça m'ouvre des perspectives. Bien, et vous répondez indirectement à la question que je vous posais tout à l'heure. Merci Manon Bril. Ça s'appelle C'est une autre histoire, c'est votre chaîne YouTube. Et je conseille vraiment à tout le monde d'aller s'amuser, à vous regarder et à apprendre plein de choses.
Merci. Voilà.
Cyril Pedrosa, il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission, et j'y vais de ce pas. Allez. Alors je descends.
Il est revenu ! Il était chez Petroni ! La Petroni au beau téton !
Attendez, mais c'est quoi ce délire ? Je connais pas de Petroni au beau téton, mais vous êtes qui, vous ?
Jacouille, la fripouille, votre humble serviteur, vous me reconnaissez quoi ?
Ah, alors ça y est, on fait une émission dans laquelle on parle de Moyen-Âge et je me retrouve avec les deux bouffons, là.
Tu veux la rasade ?
Non, je veux juste aller récupérer un vinyle. Je suis pas venu ici pour prendre la rasade, comme vous dites.
Où sont les poulards ? J'ai faim !
Non mais attendez, y a rien à manger ici, c'est une cave où je range mes vinyles. Et attendez, regardez pas Henri mon cochon comme ça, hein. Il est pas à bouffer, lui, ok ?
C'est un...
Non, t'inquiète pas, mon chouchou. Ils vont rien te faire, je suis là, tout va bien se passer.
Nuit ! Jour. Nuit. Jour.
Attendez, vous pouvez lâcher nuit. Ça, là. C'est pas un jouet et l'électricité est un peu vieillotte ici. Bon, écoutez, les gars, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais je suis venu chercher un vinyle. Vous savez ce que c'est, un vinyle ? Bah, c'est de la musique, quoi. Vous aimez quoi, vous ? Vous êtes plutôt Springsteen, Daft Punk ?
On a vendu un beau matin. On a parlé avec ses tripes.
Ouais, c'est très drôle, mais c'est nul, hein. Bon. Attendez, vous parlez à un spécialiste, là. Regardez, je vais vous trouver une pépite. Ah, tiens, je sais, un petit Joey Ramone. Tiens, toi, le petit, approche, là. Prends le casque et dis-moi ce que t'en penses.
Je n'ouïe plus.
Merde, j'avais mis le casque à fond. Bon, allez, tant pis, roule. What a wonderful world. Vas-y.
What a wonderful world.
Dylan dans Pop 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 sur France Inter avec What a Wonderful World, un morceau de 2001, extrait de l'album Don't Worry About Me, et c'est Louis Armstrong qui ne s'en est jamais remis. Manon Bril, si je le parle, oui, à l'anglaise maintenant, Manon Bril, Cyril Pedrosa, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de cette cave un musée. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser tous les deux symboliquement ici, dans ma cave?
Ok, je vous confierai une planche d'Uderzo, par exemple. Ah, je pense que ce serait bien que les générations à venir puissent la voir.
Vous êtes très fan d'Uderzo?
Complètement fan, ah, absolument.
Plus que d'Hergé, donc. On a compris. Et vous, Manon?
Bah moi, du coup, imaginons que ce soit l'heure du numérique et qu'on puisse lire une vidéo. Je pense que je laisserai une vidéo de Karim Debbache, qui est un vidéaste génialissime, il a fini sa saison là, mais qui fait des chroniques cinéma trop bien sur justement. Enfin, je pense que c'est parfait pour la pop culture. Et par exemple, il nous a fait une analyse de Gremlins ou ce genre de truc. C'est très drôle, très bien, très très bien fait. Enfin, c'est notre maître à tous pour moi.
Redites-nous son nom.
Karim Debbache.
Très bien. Et merci d'attirer notre attention sur lui. On va aller voir ça plus près.
Contactez-le.
Bien, merci Cyril Pedrosa. Votre âge d'or chez Air Libre est en train de sécher pour être disponible dans toutes les librairies cette septembre. Et nous le recommandons plus que chaudement à toutes les pop-popiennes et à tous les pop-popiens. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Manon, je rappelle, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube, Une autre histoire, et continuez de vous questionner sur la taille des pénis de statues. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Nicolas Delmas, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, et à la programmation musicale, Djoubaka. Demain dans Pop Pop Pop, lui. JCVD, Jean-Claude Van Damme en personne. Et avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Manon Bril à la fin de ses vidéos sur YouTube.
Eh ben, abonnez-vous à notre podcast ou à C'est une autre histoire.